Loire-Afrique, les infos. À Washington.
Eric Manilakiza avec vous. Bienvenue dans cette édition spéciale du 4 novembre 2020 sur les élections américaines. Les Américains se sont réveillés aujourd'hui sans savoir le nom de leur prochain président. Le dépouillement se poursuit au compte-gouttes dans sept États qui seront déterminants. Un candidat doit obtenir au moins 270 des 538 grands électeurs. Les deux candidats se sont exprimés brièvement pendant la nuit. 160 millions d'Américains ont voté, une participation record. Encore une fois, bienvenue à tous dans cette édition spéciale sur les élections américaines. Vous l'avez suivi depuis ce matin, les Américains se sont exprimés hier, mais le nom du futur président reste inconnu. Le décompte continue dans plusieurs États. Bagasikura dresse le tableau des résultats provisoires.
Les résultats partiels montrent que le président Donald Trump n'a pas subi la répudiation électorale annoncée par de nombreux sondages. Les premiers résultats compilés par la Voix de l'Amérique montrent que les deux candidats sont au coude à coude avec 224 grands électeurs pour Biden et 213 pour le président Donald Trump ce midi. Le décompte se poursuit dans plusieurs États, dont la Pennsylvanie, qui va prendre plus de temps. Le président américain Donald Trump a revendiqué ce matin avoir gagné la présidentielle face à son rival démocrate Joe Biden. « Honnêtement, nous avons gagné l'élection », a déclaré M. Trump lors d'une brève allocution à la Maison-Blanche, évoquant une fraude et une honte et assurant qu'il entendait saisir la Cour suprême. Son rival Joe Biden a aussitôt réagi vivement. Il s'est lui montré confiant lors d'un discours en personne dans son fief de Wilmington, dans le Delaware. « Gardez la foi, nous allons gagner », a lancé l'ex-bras droit de Barack Obama sous les klaxons enthousiastes de ses partisans réunis en drive-in. Peu après 0h30 du matin, « Nous pensons que nous sommes en bonne voie de gagner cette élection », a-t-il déclaré en appelant ses partisans à la patience. Pour l'emporter, un candidat doit obtenir au moins 270 des 538 grands électeurs. Ce mercredi, dans la matinée, le président sortant avec 213 grands électeurs est au coude à coude avec le démocrate 224 grands électeurs. Selon un décompte de la VOA, jamais autant d'Américains n'avaient participé à une élection présidentielle. 160 millions d'électeurs ont voté, soit une participation estimée à 66,9% contre 59,2% en 2016, selon le US Elections Project. Plus encore qu'en 2008, quand Barack Obama avait été élu. Nombre d'États ont été débordés par le déluge de bulletins envoyés par correspondance à cause de la crise sanitaire. Ouvrir les enveloppes et scanner ces bulletins pourrait, dans certaines villes, prendre plusieurs jours. Et si la justice s'en mêlait, comme en 2000, cela pourrait durer des semaines, a dit mercredi Ed Foley, spécialiste du droit électoral à l'Ohio State University.
Dans le Michigan, le spectre de longues journées d'attente, Idriss Fall a joint Suleyman Bachir Diane de l'Université de Columbia.
Le Michigan en la matière ressemble à d'autres États parce qu'il faut se rappeler qu'il y a eu quand même un record absolu dans le nombre de votes par correspondance. Les votes qui ont été envoyés par la poste, les votes qui ont été également déposés dans certaines boîtes prévues à cet effet. Et le Michigan a reçu sa part de ces votes-là. Par conséquent, cela prend du temps de les décompter. Il est possible qu'au terme de la journée aujourd'hui, on puisse avancer des résultats. Il avait été annoncé d'abord qu'il fallait attendre jusqu'à vendredi. Mais il faut bien voir que le vote dans les conditions actuelles de pandémie a été un vote historique. Les records ont été battus, mais également les records de vote par correspondance. Et cela devient très difficile pour les États de les compter. Et le Michigan se trouve dans cette situation.
Et vous pensez que ça prendra encore combien de temps?
Il est possible qu'au terme de la journée, on puisse avoir des indications relativement précises. Je crois que le gouvernement du Michigan fait tout son possible pour accélérer les choses. Espérons qu'au terme de la journée de ce mercredi, on puisse avoir une idée précise du résultat.
Pourquoi le Michigan est-il un État pivot ou un État déterminant?
Alors, l'État du Michigan est déterminant, évidemment, parce qu'il fait partie des États bascules, comme on les appelle, qui peuvent décider du vote. On est à peu près certain que certains États restent ancrés pour les républicains, d'autres pour le Parti démocratique. Et il y a des États pivots, dont le Michigan. Le Michigan est un des importants États pivots, étant donné son choix électoral en matière de grands électeurs. Il indique un peu ce à quoi va ressembler le Midwest. Il est probable que la direction prise par le Michigan soit également la direction prise par le Wisconsin. Bon, il n'y a pas de certitude en la matière, mais cela fait l'importance de cet État. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, pendant les derniers jours de la campagne, comme on l'a vu, les deux candidats ont visité encore et encore le Michigan.
Sulaiman Béchir Diagne de l'Université de Columbia à Modibo Dembélé, adjoint dans le Texas, Aristide Sidibé, journaliste et analyste politique.
Les États dont nous attendons les résultats sont des États qui n'ont pas d'expérience dans le vote par mail. Par exemple, si je prends le cas de l'État de Pennsylvania, Wisconsin et Michigan, ils ont des lois qui disent que le processus de tabulation des résultats des votes qui sont faits par mail doit commencer après la fermeture du bureau de vote qui était hier soir à 18h. Alors que dans d'autres États, ils commencent à compter ces bulletins de vote au moment où ils les reçoivent. Donc c'est ce qui explique le retard dans la publication des résultats officiels.
Quelle est votre réaction par rapport aux propos qui ont été tenus par les deux candidats, à savoir Donald Trump et Joe Biden, hier nuit?
D'abord, ils ont télégraphé leurs propos. Le président Trump, il dit ce qu'il a dit hier soir. Joe Biden aussi, à la direction de campagne, avait dit qu'il allait s'adresser à la nation pour dire ce qu'il pense. Je pense que tant que les résultats officiels ne sont pas connus, bon, c'est des candidats, hein, donc ils vont dire ce qu'ils ont à dire par rapport à leurs supporters. Mais tout contraire, la loi est claire. Tous les bulletins vont être comptés. Mais maintenant, s'il y a des procédures judiciaires qui vont être enclenchées, on verra bien.
En quoi l'élection de cette année 2020 diffère-t-elle des autres années précédentes?
Il y a principalement deux ou trois raisons. La première, c'est que COVID-19 a vraiment chamboulé beaucoup de choses. Il y a eu un peu plus de 100 millions d'Américains qui ont voté avant le jour du vote. En plus de cela, le vote par mail n'était pas quelque chose dans tous les États, donc il y a beaucoup d'États qui n'avaient pas d'expérience dans ça, ce qui fait qu'on est dans cette situation. Mais en réalité, si vous regardez l'histoire des États-Unis, dans les 50 dernières années, il y a 4 instances où les Américains sont partis se coucher sans connaître le président. Donc ce n'est pas quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'Amérique.
Est-ce que vous pensez que ça va traîner encore avant de savoir les résultats?
Tout va dépendre des 3 États, Michigan, Wisconsin et Pennsylvania. Il y a beaucoup de votes qui sont faits par mail. Il y a d'aucuns qui parlent qu'on peut aller jusqu'à vendredi, c'est possible. Maintenant, l'inquiétude pour beaucoup d'observateurs, comme le président Trump l'a dit, il a beaucoup d'avocats qui sont sur le terrain. Peut-être qu'ils vont faire des réclamations à travers les tribunaux américains. Bon, c'est peut-être ça qui va peut-être mettre un peu les bâtons dans les roues. Et ce qui fait rappeler un peu ce qui s'est passé en 2000 en Floride. Donc on n'espère pas que ça arrive à ça, mais il y a un potentiel que ça se fait.
Les opérations de dépouillement sont également en cours dans les États du Wisconsin, Nevada, Géorgie, Caroline du Nord et de l'Arizona. Je suis en ligne avec le professeur Jean-Pierre Bonguida. Bonsoir.
Ah, bonsoir, Eric.
Voilà. Quelles sont les explications à donner sur ce décompte qui n'est pas encore fini?
Bien. Il y a beaucoup de gens qui ont voté par courrier. Et ça, nous sommes en train de compter des milliers de voix. Et ça prend du temps, ça dépend des États. Il y a des États qui commencent à voter aussitôt que le courrier arrive. Donc, si les gens ont commencé à voter, disons, 3 mois auparavant, ils prendront tout ce temps-là pour compter au fur et à mesure que le vote arrive, ils comptent. Mais il y a des États qui, selon leur loi, demandent que les voix ne soient comptées qu'à partir du jour de l'élection, donc à partir d'hier. Si bien que ces États-là se retrouvent avec des millions de papiers à compter, et ça prend énormément de temps. Ça peut aller, ça peut prendre parfois jusqu'à une semaine. Vous avez vu le cas de Pennsylvanie, où en fait ils sont allés au tribunal parce que Trump voulait que les résultats soient comptés immédiatement jusqu'au jour de jusqu'à hier, au jour des élections. Mais la Pennsylvanie a dit non. Nous, étant donné que nous avons reçu beaucoup de courriers, il vaut mieux qu'on continue à compter selon notre loi. Ils sont allés à la Cour suprême qui a tranché l'affaire en faveur de la Pennsylvanie. Donc, ils vont continuer à compter jusqu'à ce qu'ils arrêtent de compter, ils finissent de comptabiliser tout ce qu'ils ont reçu, toutes les voix qu'ils ont reçues jusque-là. Donc, ça fait qu'il y aura un retard comme ça dans certains États. Donc, les gens étaient sûrs que on ne connaîtrait pas le président élu hier ou aujourd'hui. Donc, ça prendrait un peu de temps, surtout que beaucoup de gens ont voté par courrier. Ce qui ne s'est jamais fait, en fait, dans l'histoire des États-Unis, qui est des millions de gens qui ont préféré voter par courrier. Il y a plusieurs raisons pour cela. Les gens ne voulaient pas s'exposer, aller en public à cause du COVID-19. Mais, en même temps aussi, il y a le fait que ceux qui sont souvent marginalisés, les Noirs, qui n'ont pas nécessairement le temps d'aller aux urnes, on peut voir qu'il y a moyen de voter par courrier. Et c'est ça qu'ils ont fait. Donc c'est pour ça que nous avons tout ça, tout ce retard. Mais on est sûr qu'à la fin, je crois que la conclusion sera correcte. Elle sera bonne, qu'il y aura un président, c'est sûr.
On attend toujours des résultats définitifs, partiels. Quelles ont été les grandes surprises pour vous de cette soirée électorale?
Oui, la grande surprise surtout aura été la contradiction entre les sondages et la réalité même des élections. Les sondages, depuis des mois, ont donné la victoire à Biden. Et une victoire allant jusqu'à 10% dans tous les États-Unis. Et surtout dans les États qu'on appelle « swing states », les États qui vont parfois démocrates et républicains. Ben, ce sont les États, en fait, qui, à la fin, décident du président, qui sera le président. Donc, dans ces États-là, pour la plupart, Wisconsin et tout le reste, on disait que Biden allait gagner par une marge de 10%. De 5% à 10%. Ça, c'est une grande surprise de voir que Trump, pourtant, est en train de bien, les voix sont en train d'abonder dans ces États-là, et il en a même gagné quelques-uns. Ça, c'est une grande surprise, en fait, parce qu'on se disait qu'il s'est battu à plate couture immédiatement au début des élections, dès qu'on commençait à raconter les voix, il s'est battu. Mais on voit qu'il est en train de... Il se maintient. La deuxième chose, c'est que la grande surprise, surtout, c'est le fait que ce président, Trump, a été destitué, où on a commencé le processus de destitution. Mais malgré ça, c'est le tout premier président des États-Unis qui est en train d'aller encore aux élections, qui a été destitué, mais qui se maintient. En général, le public devait tous aller contre lui. Je ne dirais pas tous, mais en fait, pour la grande majorité, tout le monde devait aller contre un président qui a fait la honte du pays et qui a des devoirs à rendre vis-à-vis du peuple et qu'on a trouvé quelque part là coupable. Donc c'est quand même surprenant. Une autre surprise, c'est que malgré qu'il a boycotté le corona, malgré qu'il est allé contrairement à ce que ses médecins lui ont dit et les scientifiques ont dit, il est allé contre cela, malgré tout ça, et beaucoup de gens en sont morts et beaucoup de gens sont en train de mourir, malgré tout ça, qu'ils se maintiennent encore avec suffisamment de force jusqu'à ce point ici, c'est une grande surprise. Quelqu'un qui a refusé de présenter ses taxes, alors que tous les présidents depuis, c'est pas beaucoup d'années là, depuis 40 ans, 45 ans, ont présenté leurs taxes au public avant de se présenter comme candidat, il a refusé la première fois, il refuse pour la seconde fois, le second mandat, et il est toujours en train de jouir une certaine popularité. Ça, c'est quand même quelque chose de surprenant. Quelque chose d'autre surprenant, c'est le taux de chômage qu'on a pour l'instant, allant jusqu'à 8% pratiquement. Et un président va se faire réélire avec 8%, ça serait quand même une grande première. Donc tout cela, ce sont des grandes surprises. Mais aussi, je me dis que on avait, dans tout ça, je donne toujours raison à Trump pour l'instant, à cause de son caractère charismatique peut-être, qui fait que malgré tous les bévues qu'il a pu commettre, il a des gens qui sont ancrés à lui et qui le poursuivent, qui peuvent mourir pour lui. qui votent pour lui et qui vont continuer de soutenir, quoi qu'il en soit. Donc, ça, c'est les grandes surprises pour moi. Bon, disons que du côté de Biden, je ne me dis pas qu'il y a eu une très grande surprise. Je me dis que son calme, sa tranquillité, ça, c'est quand même... on sait que par moments, il est de nature un peu agité, commettant certaines erreurs en paroles, des mots déplacés. Mais on dirait qu'il a été vraiment catégorique vis-à-vis de ce qu'il disait. Il a été correct, je voulais dire, vis-à-vis de ce qu'il a fait, ce qu'il a dit jusque-là. Donc, il se montrait correct. Et la grande surprise, c'est qu'il aurait pu maintenant être déjà proclamé président, mais il ne l'est pas. Donc, nous attendons. C'est une question de patience.
Oui, juste une petite rectification. Le Sénat a acquitté le président Trump après avoir subi une procédure de destitution au niveau de la Chambre des représentants. Tout en appelant à la patience, le gouverneur
oui.
de...
Est-ce que je peux revenir sur ça?
Oui.
Oui, je sais que le Sénat l'a acquitté. Mais tout ce que les démocrates ont fait, c'est pour faire voir au public américain que ce président n'était plus valide pour nous représenter à cause de tout ce qu'il a fait. Tous les présidents qui sont passés devant le Sénat, sauf Nixon, ont été acquittés. Quand il s'agissait de l'impeachment, là. Mais le public, c'est le public qui devait juger de leur président que le président n'est plus capable de nous représenter parce qu'il s'est montré pas correct dans tout cela, malgré que le Sénat l'ait acquitté. Mais le public ne le condamne pas en majorité parce qu'on voit qu'il y en a qui continuent à le suivre.
Gardez.
Donc, vous dites correct, mais je voulais aussi ajouter le fait que c'est en fait sur le plan du public qu'il devrait être condamné, pas sur le plan du Sénat.
Gardez la ligne, professeur Jean-Pierre. Nous allons revenir vers vous vers la fin de cette édition. Une petite courte pause.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Dans tout le pays, le vote s'est déroulé sans incident majeur. Comme cela a été craint depuis plusieurs jours, les commerçants de plusieurs grandes villes s'étaient barricadés en prévision de possibles violences. Didi Diko s'est rendu dans le centre-ville de New York.
Au lendemain de l'élection présidentielle, l'ambiance à New York est calme. Les habitants, armés de patience, attendent les résultats à l'échelle nationale pour savoir qui de Trump ou de Biden sera le nouveau président des États-Unis. Cette élection présidentielle marque la toute première fois que l'État de New York met en place le vote anticipé, ce qui en fait l'un des derniers États à opter pour ce système. Pour les responsables électoraux de New York, le défi était d'améliorer la faible performance de l'État lors du dépouillement et de la distribution des bulletins de vote par correspondance pendant la primaire. Et à New York, des sièges de la Chambre des représentants sont également en jeu cette année. Les résultats définitifs des législatives ne sont pas encore disponibles, mais les observateurs font remarquer que cette course devrait être représentative de l'élection présidentielle, avec des démocrates tentant de remporter certains bastions républicains. En attendant donc que tous les votes soient comptabilisés et que tous les bulletins par correspondance soient dépouillés, les New-Yorkais, comme tous les autres Américains, attendent les résultats de la présidentielle qui, dit-on, pourrait tomber jeudi, voire vendredi.
Les partis républicains et démocrates ont déployé leurs équipes de militants respectives pour inciter les électeurs dormants ou indécis à faire pencher la balance du côté de leur candidat pour avoir une idée du travail accumulé par ces militants actifs. Nathalie Barge a joint ici à Washington Khadidia Viviane Doumbia, américaine d'origine ivoirienne, membre de l'Alliance des femmes pour la démocratie et la justice.
C'est le rôle de tout membre actif de tout parti, c'est-à-dire que téléphoner pour encourager les électeurs et ceux qu'on appelle des électeurs dormants qui ne votent pas souvent à y aller, beaucoup de texting, parce que on peut le faire à n'importe quelle heure. Encourager les personnes autour de nous que nous connaissons à aller voter également.
On a eu une très forte participation, hein, avec 160 millions de personnes qui ont voté, ça représente à peu près 67%. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est dû au bulletin par correspondance, donc le vote par anticipation? Est-ce que c'est dû à la situation? Comment vous l'expliquez, cette forte progression de la participation à cette élection?
Alors, je pense qu'il y a surtout l'enjeu. les deux côtés. L'enjeu du côté du Parti démocratique, c'est de faire partir Trump. Les propos tenus par Trump ont exacerbé l'ancien sentiment qu'on pensait avoir disparu dans le pays. Et le fait que le vote soit serré nous interpelle également.
Est-ce que vous avez pu noter une progression des femmes qui ont voté?
Oui, les femmes noires ont beaucoup voté. Néanmoins, les plus jeunes, nous n'en sommes pas si sûrs parce qu'elles n'étaient pas claires sur la personne pour laquelle voter. Le problème du vote noir, c'est qu'on pense qu'il doit aller directement au Parti démocratique et on fait la cour au vote noir toujours lorsqu'il y a des élections. Donc, quelque soit le parti, je pense que c'est une erreur qu'il faudra corriger. Les femmes blanches ont beaucoup voté pour Biden. Il a eu quand même une bonne partie du vote noir, surtout des femmes.
Khadidia Viviane Doumbia, membre de l'Alliance des femmes pour la démocratie et la justice à Washington DC. À Arlington, en Virginie, Arzuma Compaoré s'est entretenu avec Mamadou Baldé, d'origine guinéenne.
On en discute beaucoup parce que c'est une élection qui nous affecte directement en tant que communauté résidant ici aux USA, sur le plan de l'immigration, sur le plan économique, sur l'aspect social, parce que en tant que Gabonais, nous faisons partie des minorités, des Noirs. Donc c'est un débat assez intéressant parce que les avis sont très partagés. Beaucoup penchent pour un côté républicain, beaucoup penchent aussi pour un côté démocrate. Donc c'est assez intéressant.
Est-ce que vous arrivez à en discuter calmement ?
On arrive à discuter sans se frustrer et pouvoir partager des avis différents parce que chaque candidat a un projet qui est différent de l'autre et qui nous affecte différemment. Sur le plan des taxes, par exemple, sur le plan de la résidence américaine, pour la citoyenneté aussi, parce qu'il y a beaucoup de réformes qui ont été faites par le président actuel et qui ont réellement affecté notre communauté. Les raisons qui font que l'un ou l'autre adhère à tel ou tel parti sont vraiment différentes. Beaucoup sont plus penchés vers le parti républicain pour des raisons économiques. Pour des raisons financières, beaucoup aussi sont dans l'entrepreneuriat ou aspirent à devenir entrepreneurs. Donc, avec les informations que l'on reçoit par rapport aux aides sociales offertes par le gouvernement pour aider les petites compagnies, les petites et moyennes entreprises, donc beaucoup penchent de ce côté-là. C'est assez diversifié, j'avoue.
Ce n'était pas donc Mamadou Baldé d'origine guinéenne, c'était plutôt la secrétaire générale de l'association gabonaise Gabonese Community USA, Judith Omanda, jointe par Nathalie Barge. Nous nous dirigeons directement vers le Gabon, à Libreville. Ismaël Obiangze a rencontré certains habitants de Libreville qui ont suivi le processus électoral américain. Suivez.
Le déroulement de la présidentielle américaine est surtout scruté de près dans les milieux intellectuels gabonais. Georges Moussavou est sociologue des organisations internationales et des institutions publiques.
La présidentielle aux États-Unis, déjà c'est quelque chose que je suis habituellement depuis ces dernières années et qui, moi, me donne à l'esprit, me montre combien de fois les citoyens américains sont engagés politiquement et comment de façon globale les Américains se défendent par rapport à la question de la gouvernance de leur pays, par rapport à la qualité des élites qui doivent diriger le pays.
Marie-Salomé Mengeondo est technicienne de recherche à l'université Omar Bongo. Son point de vue tranche plutôt avec le processus électoral américain.
Aucun intérêt pour moi. Qu'est-ce qu'ils font pour nous? Ils ne s'occupent même pas des Noirs qui sont chez eux. C'est à nous qu'ils vont penser.
Pour le politologue André Adjo, l'Afrique doit tirer le meilleur parti d'une telle expérience démocratique.
L'Afrique doit, me semble-t-il, développer une grille d'analyse autonome. Qu'est-ce qu'elle gagne? par rapport à des alternances qu'il pourrait avoir en Amérique, par exemple, qu'est-ce qu'elle perd et quels sont les domaines qu'elle doit absolument investir, s'autonomiser pour conforter ou du moins gagner son indépendance pour un continent qui est particulièrement fragile, notamment sur les questions de sécurité, sur les questions économiques.
En suivant la présidentielle aux États-Unis, le sociologue Georges Moussavou rêve d'une Afrique qui prenne son destin en main.
Je suis de ceux qui pensent que les Gabonais en particulier et les Africains de façon générale doivent d'abord penser eux-mêmes leur propre développement. S'ils veulent se développer, ils doivent regarder, ils doivent penser le développement d'abord par rapport à eux. D'abord, c'est fondamental, mais aussi et surtout par rapport aux autres. Par rapport aux autres dans cette question du rapport de force.
La présidentielle américaine doit départager républicains et démocrates. Le monde entier retient son souffle pour ce scrutin à l'issue incertaine. Libreville, Ismaël Obianzé pour VO Afrique.
Merci à Ismaël Obianzé. Nous retrouvons notre invité, le professeur Jean-Pierre Bongida. Vous êtes encore là?
Je vous en prie.
Oui. Tout en appelant à la patience, le gouverneur de Pennsylvanie, Tom Wolf, a déclaré, je cite, « Notre démocratie est mise à l'épreuve dans cette élection. Est-ce votre impression ? »
Oui, absolument. Parce que tel que le président Trump a dirigé le pays, on a frôlé un peu l'autocratie, on a frôlé un peu la dictature. Il y a des mesures qu'il prenait de lui-même sans en référer au Congrès, et donc, par exemple, demander à son ministre de la Justice de traquer tous ceux-là qui étaient contre lui. À un moment donné, il s'était même demandé pourquoi est-ce que son ministre de Justice n'avait pas mis en prison les démocrates qui étaient contre lui. Et donc, on a frôlé peu à peu la dictature, ce qui va à l'encontre de la démocratie. Et parlant des élections elles-mêmes, et le président, dès le début, a dit que les élections seraient complètement truquées, qu'on ne devait pas, écouter, on ne devait pas prendre au sérieux certains résultats des élections si lui perdait. Ça signifie que le système démocratique lui-même, qui procède par des élections libres, n'existe plus. Ça, c'est un danger pour la démocratie qui est basée sur des élections libres et fiables. Donc, vraiment, si on doit aller vers la fin de ces élections sans trop de problèmes, il y a des leçons à tirer. La première leçon, c'est que la démocratie, effectivement, comme vous avez dit, a été mise à l'épreuve, mais on aura réussi à la sauver. Si à la fin de ces péripéties ici, on arrive avec un président, on arrive à trouver le président voulu que la majorité des Américains vont accepter, ça, ce sera vraiment sauver la démocratie. Autrement, l'épreuve va continuer et si jamais le président Trump doit mettre sur la rue des gens qui vont commettre du banditisme, aller combattre les démocrates qui ont été contre lui.
Il y avait ces craintes, mais il n'y a pas eu d'incident jusque-là. Le président Trump a quand même amélioré son score national d'une manière extraordinaire. Il y a une forte majorité qui soutient sa politique, malgré tout.
Oui, nous disons qu'en fait, oui, parce qu'il y a la majorité, la minorité silencieuse là, qui ne votait pas. Et les gens, les fermiers, tous ces gens calmes dans leur village, dans leur ferme, qui maintenant se retrouvent partisans à la politique, simplement à cause de Trump. Ils ont vu quelqu'un qui pouvait parler en leur faveur et ils y ont adhéré. Nous pouvons dire que ça, c'est un point positif. Mais d'un autre côté, et c'est une grande subversion quand nous savons que c'est en fait une manière de mettre à couteau tiré la population blanche contre les autres populations.
Merci, professeur Jean-Pierre. Le temps est terminé. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Firmin Kouyaweda, à la présentation, Eric Manilakiza. Restez à l'écoute des programmes de VOA Afrique.